Olivier de Nance, pour un clochard disparu. Chapitre 1. Emménagement. Cette histoire commence à la sortie du lycée, quelques jours avant Noël. Ce soir-là, il faisait gris et froid. J'étais en terminale et je préparais le bac. La journée avait été chargée. Un contrôle d'histoire le matin et un devoir surveillé de maths pour finir l'après-midi. Je franchissais la grille en compagnie de mes deux inséparables amies, Amélie, une blondinette, fille de notaire, style BCBG, un peu coincée, mais toujours attentive aux malheurs des autres et toujours prête à rendre service, et Ursula la brune, une superbe fille délirante, toujours partante pour n'importe quelle excentricité, une copine toujours joyeuse, avec qui on ne s'ennuie jamais. En sortant, nous commentions les problèmes de maths et comparions nos solutions. J'étais assez fière de moi, je pensais avoir presque tout réussi. Comme tous les soirs, marchant de front et occupant toute la largeur du trottoir, nous prenions ensemble la direction du centre-ville où nous habitions, en papotant gaiement. Mais ce soir-là, au bout de 10 pas, je m'arrêtai net. Hé, les filles, j'oubliais, je n'habite plus par là. Effectivement, ce vendredi était le jour du déménagement de ma famille. Il avait dû se faire sans moi, car je n'avais pu me libérer, pour cause d'études à poursuivre au lycée ce jour-là. Nous quittions l'appartement en centre-ville, au-dessus de la librairie de la presse, où nous habitions depuis 7 ans, pour une grande maison à la sortie de la ville. Mes deux copines étaient bien sûr au courant, mais la tête bourrée de maths, pas plus que moi, elle en avait percuté qu'il me fallait désormais prendre le soir une autre direction. Une bise à Ursula et une bise à Amélie. « Salut les filles !»« Salut Emmanuel, bise chez toi. Tu nous inviteras un de ces soirs qu'on vienne voir. » Je fis demi-tour et je repartis seul en direction de ma nouvelle demeure. J'avais 1,5 km à parcourir à pied, cela me prit peu de temps. À la sortie de la ville, j'arrivai devant une énorme porte cochère, prise dans un grand mur de pierre. J'en ouvris la porte piétonne et entrai dans la cour. 3 mois plus tôt, mon père avait eu le coup de foudre pour cet hôtel particulier à vendre. C'est l'agence immobilière qui avait fait paraître une annonce avec ce titre d'hôtel particulier. En fait, d'hôtel particulier, il s'agissait d'une vaste cour carrée avec d'immenses bâtiments en piteux état tout autour. Au fond, la partie principale, particulièrement imposante, où l'on accédait par un perron, avec un double escalier, avait dû avoir quelque allure. Là s'arrêtait toute comparaison avec un hôtel particulier. Le principal atout de cette maison était son prix. Dans son état, monumental et à la limite de la ruine, elle était proposée à un prix tout à fait abordable. Les parents pensaient pouvoir la payer en moins de 10 ans. À part la toiture, remise à neuf tout récemment, d'après l'agent immobilier, révisée il y a quelques années d'après mon grand frère, bricoleur et homme à tout faire de la famille, tout était à reprendre. Elle avait été longtemps occupée par un grossiste en vins et boissons qui avait arrêté toute activité il y a plus de 10 ans. Autour d'un puits central, la cour, autrefois pavée, était devenue une vraie prairie. On aurait pu y installer un mouton ou un âne sans qu'il risque de manquer de fourrage. Au fond de la cour, le bâtiment principal à 3 étages offrait de grandes possibilités d'aménagement. Ses 7 fenêtres par niveau et l'espèce de tour qui dépassait de l'ensemble sur la droite pourraient lui donner une certaine classe, après rénovation bien sûr. Les crépis tombaient par plaques, certains volets n'étaient plus que des squelettes de bois. L'escalier était envahi d'herbe et il manquait des vitres un peu partout. L'intérieur était à l'avenant. Sur les côtés, de grands hangars en partie vitrés devaient abriter les stocks. De grandes caves voûtées, accessibles par l'arrière du bâtiment, devaient permettre de conserver et faire vieillir le vin. La pièce centrale, la plus belle de la maison, en haut du perron, servait sans doute de bureau pour recevoir les clients du temps du marchand de vin. Avec mon grand frère, nous imaginions les clients, que nous appelions les assoiffés, entrant à charrette à cheval par la porte cochère et se faisant remplir de vin de grandes barriques qu'ils avaient apportées vides. Pendant que les laquais s'occupaient du remplissage, les pompes n'existant sans doute pas encore, les remplissait-on avec des seaux ? L'assoiffé prenait le temps de discuter le coup avec le patron en goûtant les différentes cuvées gardées au frais dans les caves. Il devait ensuite gravir l'escalier le plus dignement possible pour aller payer au bureau. La dernière épreuve consistait sans doute à remonter sur sa charrette. Ensuite, il pouvait s'assoupir, cuver son vin, c'était au cheval de ramener la voiture à la maison. Mon frère disait d'ailleurs qu'à l'époque, lors des contrôles d'alcoolémie, c'est le cheval que les gendarmes faisaient souffler dans le ballon. Ce soir-là, c'est parfaitement à jeun que je grimpais le fameux escalier du perron. La presque totalité de nos meubles avait été entassée dans la grande pièce qui allait servir, du moins au début, de séjour, de cuisine, de salle de bain et de chambre à coucher pour les parents et mes deux jeunes frères et sœurs. J'embrassais maman, qui s'affairait dans le coin cuisine pour nous préparer un dîner réconfortant. Maman était la personne qui m'était la plus chère au monde. Toujours souriante, toujours attentive et délicate, elle était une confidente toujours disponible. Elle savait reconnaître et montrer à chacun où était le meilleur de lui-même. Les deux jumeaux, Agnès et Rémi, âgés de 8 ans, faisaient leurs devoirs sur la grande table en se chamaillant et en avalant du pain avec du chocolat. Mon grand frère Thibault, 20 ans, le génial bricoleur de la famille, venait d'installer et d'allumer un gros poêle à bois. Il s'occupait maintenant de remplacer les carreaux manquants aux fenêtres. C'était un long travail, délicat, dont il se tirait à merveille. Papa, qui, ayant pris sa journée, était exceptionnellement présent ce soir-là, se déplaçait avec un escabeau pour agrafer de vieux draps sur les poutres. Il créait ainsi des cloisons pour délimiter les chambres et la salle de bain. Tout en faisant le tour de ce qui était en train de devenir notre nouveau lieu de vie, je grignotais un bout de pain en guise de goûter. Mon père m'interpella. « Alors, Emmanuel, tu es toujours décidé à t'installer là-haut ?» Il faut préciser que le dimanche précédent, l'agent immobilier nous avait obligeamment prêté les clés et nous avions pu prendre le temps de visiter les lieux en famille. Nous avions passé l'après-midi à imaginer notre nouvelle vie dans ce décor géant et chargé d'histoire. Un rayon de soleil était venu à point pour échauffer et embellir la vieille bâtisse. La grande salle serait le point de ralliement de toute la famille. Cela paraissait évident à tous. Il faudrait par la suite remettre en état les pièces attenantes pour aménager la chambre des parents, celle des jumeaux, une salle de bain et pourquoi pas un bureau, une bibliothèque, une salle de cinéma, etc. Thibault, en bricoleur passionné, avait flashé sur un ancien atelier dans une aile du rez-de-chaussée donnant directement sur la cour. Il y avait déjà un établi, une forge, des rayons avec des boîtes de bois. Au fond, un escalier, étroit et branlant, donnait accès à une mansarde. Thibault décida que ce serait son domaine. Il y installerait un poêle et plus tard un cabinet de toilette. Quant à moi, la tour m'attirait. Après avoir grimpé plusieurs volets d'escalier, j'arrivais tout en haut dans une grande pièce carrée, avec une fenêtre à chacun des points cardinaux. De ce troisième étage, la vue était extraordinaire, on avait l'impression de planer au-dessus du quartier. Je fus immédiatement subjugué et je décidai de m'installer là. Thibault me fit remarquer que j'allais me geler dans ce pigeonnier. Mais il repéra la présence d'un conduit de cheminée et donc la possibilité d'y installer un poêle. Maman me fit remarquer qu'il me faudrait monter les bûches par les escaliers depuis la cour, mais cela ne m'inquiéta pas. C'est pourquoi, en ce soir de notre arrivée, m'emparant d'une lampe de poche, je grimpai 4 à 4 les escaliers pour prendre possession de mon domaine à moi. Au milieu de la pièce, les déménageurs avaient déposé mon lit, mon bureau, ma commode et ma petite armoire. À côté étaient empilés quelques cartons contenant mes affaires. Il n'y avait pas de lumière, un très sérieux ménage serait à faire, et surtout il faisait froid. Pourtant, je ne me décourageais pas. C'était chez moi et c'était merveilleux. Le soir à table, papa prit la parole pour organiser notre nouvelle vie de famille. Papa était un artiste, un véritable artiste, avec des pieds qui ne touchaient pas tout à fait terre. Il jouait du violon à la perfection, à mon avis du moins, et peignait toutes sortes de tableaux magnifiques. Comme malheureusement cela ne suffisait pas à faire vivre la famille, il avait dû prendre un travail régulier et rémunéré, mais à son goût, ce travail lui prenait toujours bien trop de temps. Il était policier. Il ne s'occupait pas de mettre des PV, de faire la circulation ou de garder les musées. Il était inspecteur. Il faisait partie d'une équipe qui cherchait à retrouver les voleurs, les assassins et les pédophiles. Il était particulièrement apprécié pour ses qualités de physionomiste et pour son étonnante mémoire. Il était capable de reconnaître sous un maquillage une personne qu'il avait aperçue 2 minutes quelques années plus tôt. Au timbre de la voix, il était capable de reconnaître plusieurs centaines de personnes. En partant d'un nom, il pouvait réciter l'essentiel du dossier correspondant. Cela agaçait parfois maman, qui se demandait comment son mari pouvait être reconnu comme si efficace dans son boulot, alors qu'il était incapable de gérer la moindre situation concrète à la maison. Mais maman n'avait jamais pu voir papa en action à son travail. Ce soir-là, papa nous fit un grand discours sur les nouvelles perspectives de la famille dans son nouveau cadre. Il aimait bien faire des discours et s'écouter parler avec plaisir. Sa déclaration fut plutôt politique, avec de grandes idées enthousiasmantes, mais pas grand-chose de concret. Maman le regardait d'un air attendri. Depuis 20 ans, elle était toujours amoureuse du beau jeune homme qu'elle avait rencontré au mariage de sa meilleure amie et qu'il avait subjugué par ses belles paroles et son violon. Les deux jumeaux, émerveillés, buvaient les paroles de leur père. Thibault m'adressa quelques coups d'œil sceptiques, mais ne fit aucune remarque désobligeante. Dans la semaine qui suivit, profitant des vacances de Noël, Thibault se démena pour nous installer au plus vite et au moins cher un minimum de confort. Il fit plusieurs achats à Emmaüs avec la remorque d'un copain. Il trouva et installa 2 autres poêles à bois, un pour ma chambre et un pour la sienne. Avec du tuyau d'arrosage, il aménagea une salle de bain provisoire comportant une douche, un lavabo, un WC et même un cumulus pour avoir de l'eau chaude. Je l'aidais comme je le pouvais. Étant beaucoup moins doué que lui, je faisais de petites choses souvent répétitives pour lui faire gagner du temps. Il profita de ses vacances pour travailler au maximum dans la maison. À Noël, l'urgent indispensable était fait. Durant cette première semaine, mon père reçut, en soirée, la visite de nombreux artisans venus à sa demande pour établir des devis. À chacun, il faisait un long discours sur la nécessité de préserver l'aspect historique du lieu, son désir de conserver intact le charme des vieilles pierres et sa volonté de réaliser les travaux au plus vite pour ne pas laisser trop longtemps sa chère famille dans l'inconfort. Par contre, il ne donnait que très peu d'indications pratiques sur les travaux à réaliser et sur les limites du budget. Nous fêtâmes Noël tous ensemble, sur place, en mode camping et dans la plus grande allégresse. Le ciel eut la bonne idée de nous envoyer quelques flocons de neige à la sortie de la messe de minuit. C'était merveilleux. Dans la quinzaine suivante, papa reçut par courrier les devis demandés. Il les lut, les rangea, et ne fit aucun commentaire. Comme je demandais à maman quelle décision avait été prise, elle me répondit qu'ils y réfléchissaient. Papa, interrogé à son tour, me servit une jolie phrase, mais qui ne me donnait pas plus de réponse. Finalement, j'en parlais à Thibault. En tant que meilleur technicien de la famille, papa lui avait demandé son avis sur certaines propositions reçues des entrepreneurs. « Ma pauvre Emmanuelle, plusieurs devis ont un total supérieur au prix d'achat de la maison. Ne rêve pas trop, papa et maman n'ont pas les moyens de restaurer cette baraque. Tu ne verras sûrement pas beaucoup d'artisans venir travailler ici. Il va falloir nous débrouiller tout seuls. Nous n'aurons que ce que nous serons capables de réaliser par nous-mêmes. » Enfin, une veille de week-end, papa déclara au dîner que les artisans étant hors de prix, il avait décidé de se lancer lui-même dans les travaux de restauration et qu'il comptait s'y mettre dès le lendemain. Thibault me lança un regard qui reflétait à la fois la surprise et l'incrédulité complète. Le lendemain, dès 9 heures, papa, équipé d'une vieille blouse, arpenta la cour en vue de prendre des repères. 1 heure plus tard, ayant sorti des pinceaux et de la peinture, il se mit au travail. Du haut de ma tour, je le vis s'installer et je descendis le rejoindre dans la cour pour voir comment il allait s'y prendre. Il avait installé son chevalet à l'angle de la cour, non loin de la porte cochère, et tracé une esquisse du bâtiment principal. « Tu vois, me dit-il, pour les travaux, il est capital d'établir un état des lieux avant de commencer quoi que ce soit. Les architectes ne font pas autrement. Seulement, moi, je le fais avec de la peinture et non avec des plans, parce que je suis plus à l'aise dans cette technique. » Au bout de 3 week-ends, il en sortit un très joli tableau qui, tout en gardant une note gaie, rendait bien compte de l'état de délabrement de la maison. Papa nous annonça alors qu'il allait s'attaquer à la restauration des bâtiments dès le samedi suivant. Aucune livraison de matériaux n'ayant eu lieu, j'eus quelques doutes sur la véracité de cette promesse. Mais j'eus tort de douter de mon père. Le samedi en question, équipé de ses outils préférés, il se mit au travail. Il installa de nouveau son chevalet dans le même angle de la cour et se lança dans une nouvelle peinture montrant les bâtiments après rénovation. Selon lui, la maison allait devenir magnifique sans rien perdre son cachet ancien. Des fleurs égayaient les façades un peu partout et on devinerait une silhouette à certaines fenêtres. Un peu écœuré, j'allais voir Thibault qui bricolait dans son atelier. En meulant une vieille clé, il essayait de faire un double pour la serrure de la porte d'entrée. « Papa commence les travaux derrière son chevalet. »« Eh oui, qu'est-ce que tu croyais ? Donne-lui un marteau et un tournevis, il ne sait pas par quel bout ça se tient. Il n'y a que ses petits pinceaux et son archer qu'il sache manipuler avec bonheur. On ne peut pas lui en vouloir. Tout le monde n'est pas manuel. Ça ne doit pas t'empêcher de l'aimer comme il est. Nous avons la chance d'avoir un père merveilleux, tu sais. Peut-être. Écoute, hier soir, je l'ai invité avec maman dans ma chambre. Au début, je les ai un peu bousculés. J'étais un peu énervée, comme toi ce matin, car je voulais savoir quand et comment allait commencer ses travaux. Finalement, nous avons bien discuté tous les trois. Ils ont fini par m'avouer ce dont je me doutais. Ils n'ont pas les moyens de faire travailler des artisans. Pourtant, ils se rendent bien compte que certains travaux sont indispensables, une salle de bain par exemple. Ils ont même gardé de l'argent de côté pour les faire. Je leur ai proposé la seule solution qui me paraissait possible. Je ferai moi-même les travaux le soir, les week-ends et pendant les vacances. Ça prendra du temps, mais tant pis. Les parents ont accepté, ils me font confiance. Ils paieront les matériaux et me donneront quelque chose pour mes heures. Si tu viens m'aider, tu pourras aussi gagner un peu d'argent. Ainsi, tout le monde sera satisfait et petit à petit, à défaut de restaurer l'ensemble des bâtiments, nous gagnerons un peu de confort dans la partie que nous habitons. Quelques jours plus tard, un samedi matin, Amélie et Ursula, mes excellentes copines, vinrent nous donner un coup de main pour les travaux. Elles étaient ravies à l'idée de passer une journée ensemble et la perspective d'une petite rémunération ne les ennuyait pas trop. J'avais enfilé de vieux vêtements, mais elles arrivèrent pomponnées comme pour aller faire les magasins. Sous un manteau bleu marine, Amélie portait une jolie robe de même couleur avec un gilet rayé bleu et blanc de style marin. C'était très joli. Ursula, très maquillée comme à son habitude, quitta sa grosse doudoune bien chaude en duvet d'oie et apparut tout en blanc. Elle portait un immense pull très décolleté qui descendait jusque sous ses fesses, complété par un col en blanc. Nous allâmes nous présenter devant le contremaître. Thibault était le grand chef incontesté pour tout ce qui concernait les travaux de la maison. Il fit bien sûr la grimace. « Je vais vous demander de poser de la laine de verre, ce sera plus facile à plusieurs et cela ne demande pas de compétences particulières. Mais j'ai bien peur que vos tenues, qui, soit dit en passant, vous vont à ravir, mesdemoiselles, ne conviennent pas à ce type de travail. Emmanuel, tu as sans doute de vieilles fringues à prêter à tes amis. » Je les entraînai toutes les deux dans ma chambre. En entrant, elles commencèrent par embrasser Freddy, un énorme mousse brun, très doux, qui passait ses journées à se prélasser sur mon lit. Dans un grand carton, je gardais des vieux vêtements qui me servaient de tenue de chantier. Quittant leur tenue de ville, elles enfilèrent mes vieux jeans usés et de vieilles chemises fatiguées qui avaient servi à mon père. « Fringuée comme ça, on doit avoir l'air d'une bande de clowns. Dommage que tu n'aies pas de glace, on doit faire un joli groupe. » « Je n'ai pas encore de glace, mais j'ai ceci, » dis-je en brandissant mon appareil photo. Un bon quart d'heure plus tard, nous redescendîmes. Thibault eut la courtoisie de ne pas montrer son impatience et il nous expliqua le travail. Il avait décidé qu'une des premières choses à faire était d'isoler sérieusement des courants d'air le paradis que nous habitions pour pouvoir le chauffer correctement. Les autres aménagements viendraient ensuite. Il avait fixé sous les poutres du plafond des rails métalliques parallèles qui serviraient de support à un faux plafond en plaques de plâtre. Notre travail allait consister à découper des bandes dans des rouleaux de laine de verre épaisse et à les glisser entre le plafond et les rails. Thibault tenait à ce que le travail soit bien fait, mais il nous laissa nous organiser comme nous le voulions. Il nous prêta à chacune un chapeau et une paire de lunettes pour nous protéger la tête et les yeux. Cela paraissait tout simple. Cependant, nos débuts furent décourageants. Les bandes étaient assez simples à découper, mais pour les lever et les glisser sur les rails sans les déchirer, c'était une autre paire de manches. Nous étions toutes les trois perchées sur des marchepieds, soutenant la longue bande de nos six bras en l'air, et nous nous engueulions à qui mieux mieux. « Vas-y, pousse !»«
Non, non, retire, ça coince !»«
Tu me dis de pousser !»«
Non, tire !»«
Hé, dépêchez-vous, j'ai mal au bras, moi !»«
Eh bien, fais comme si tu n'avais pas mal, ce n'est pas le moment de lâcher !» Bon, tu pousses ?
La laine de verre, qui paraissait si douce, était sournoisement piquante et nous faisait tousser d'une toux sèche qui n'en finissait plus. Heureusement, bande après bande, avec l'expérience, nous avons perfectionné notre technique. Nous sommes devenus plus efficaces et nous progressions plus vite avec moins d'efforts. Les jumeaux voulurent absolument nous aider. Maman étant partie faire des courses, je n'eus pas le cœur de les repousser. Ils se déguisèrent en tenue de chantier et nous firent bien rire. Mais maladresse après maladresse, ils finirent par se disputer et je dus les prendre par la main pour les faire sortir. En râlant, ils allèrent jouer dans l'un des hangars et nous laissèrent travailler en paix. À midi, maman nous avait préparé un super repas et en début d'après-midi, nous reprîmes le travail avec entrain. Pourtant, le soir, quand vers 4h30, Thibault nous annonça que nous avions bien travaillé et que la journée était finie, nous en avions vraiment plein les bras. Thibault nous conseilla de prendre au plus vite une douche très chaude pour éliminer les aiguilles de verre qui s'étaient incrustées dans la peau. Amélie et Ursula n'étaient pas très rassurées de devoir se doucher dans notre salle de bain. Les cloisons et la porte n'étaient que de simples draps qui ne touchaient même pas terre. Le WC était un modèle chimique comme dans les camping-cars. Le receveur de douche était un baquet en bois récupéré dans une des caves. Quant à la robinetterie, elle tenait comme elle pouvait, vissée sur une planche. Un bon goûter avec des crêpes clôtura cette journée. Les jumeaux y participèrent sans même demander d'autorisation. Ils étaient beaucoup plus doués pour engloutir des crêpes que pour aider aux travaux de la maison. Je remarquai qu'Ursula, qui avait perdu son maquillage sous la douche, avait un très joli visage. C'était la première fois que je la voyais non maquillée. José lui en fait le compliment qui fut appuyé par Amélie, puis par maman. Elle en parut fort surprise et j'eus l'impression qu'elle ne savait plus où se mettre, comme si elle se sentait toute nue. Le soir, après dîner, j'étais remontée dans ma chambre, je m'étais déshabillée et je m'apprêtais à me coucher quand j'entendis des coups sourds réguliers. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ces « boum boum » comme le rythme d'une musique lointaine. C'était toujours le soir qu'ils apparaissaient. Ils étaient nets pendant quelques minutes, puis s'atténuaient tellement qu'ils devenaient à peine audibles. J'ouvris la fenêtre côté cour. Non, rien de ce côté. Je traversai la chambre pour ouvrir la fenêtre opposée, et là, j'entendis un peu plus distinctement une musique qui paraissait à la fois lointaine et proche. C'était assez curieux. Il ne m'arrivait que certaines fréquences, comme si elle venait de plusieurs kilomètres, mais en même temps, il me semblait qu'elle montait tout droit de la terre. À cet instant, je vis comme une clarté apparaître au pied du mur. Puis elle disparut, et la musique aussi, bien qu'en prêtant l'oreille, on devinait qu'elle subsistait en sourdine. Pour mieux comprendre, il faut que je décrive ce côté de la maison. À l'arrière du bâtiment principal, du côté opposé à la cour, passait un chemin empierré qui longeait une petite rivière calme, la Savinière. On disait même que le chemin était l'ancien chemin de halage où marchaient les chevaux qui tiraient les chalands pour remonter le courant. D'ailleurs, on disait aussi que c'était pour être livré plus facilement que le marchand de vin s'était installé là, au bord de la Savinière. Ce chemin se trouvait un étage plus bas que la cour et une série de caves voûtées creusées sous la maison avait un unique accès directement sur ce chemin. J'étais curieuse mais pas peureuse. Tout simplement, l'idée me vint d'aller voir ce qui se passait de si bizarre au pied de ma tour. Je m'en sentais personnellement propriétaire et tout ce qui s'y rapportait m'intéressait au plus haut point. Enfilant une robe de chambre, je descendis les escaliers, traversai la cour, franchis la porte cochère et, contournant la maison, je descendis vers le chemin de halage par un petit sentier à peine tracé dans les broussailles. Il faisait froid, sans doute était-on à la limite du gel. Frissonnante, je pensais que j'aurais dû me couvrir davantage. La lune, dans ses premiers quartiers, versait une lumière glacée sur ce paysage immobile. Juste sous la tour, dans la pénombre, se découpait la porte d'une cave. Elle était fermée. Je n'entendais plus aucune musique. 5 autres portes, plus loin, donnaient accès à 5 autres caves sous la maison. Je n'essayais même pas d'ouvrir ces portes, car je n'avais pas emporté de lampe et je ne tenais pas à me hasarder dans l'obscurité totale. Je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien. Je frissonnais encore une fois et pensais que je serais bien mieux sous ma couette. Je m'apprêtais à remonter en trottinant pour me réchauffer quand j'entendis comme un éclat de rire étouffé. C'était assez surprenant. Y avait-il un fantôme dans ces caves? Mais je ne croyais pas aux fantômes. Puis la musique assourdie reprit. J'entendis distinctement les boum-boum de la batterie qui reprirent. Les fantômes ne jouent pas de la batterie, ou alors c'est nouveau. Cela semblait venir de la porte sous la tour, juste en face de moi. C'était une épaisse porte de bois. Je la tirai, elle s'ouvrit. Elle n'était pas fermée à clé. Une fois ouverte, j'entendis beaucoup plus distinctement la musique. J'avais devant moi une sorte de couloir obscur. Au fond de ce couloir apparaissait un trait de lumière sous une porte. Maintenant, j'entendais nettement la guitare électrique et le synthé. Je pensais à des squatteurs qui écoutaient de la musique un peu fort. Je m'avançais à tâtons. Conditionné par ma bonne éducation, je frappais à la porte. Bien sûr, personne ne me répondit, on ne risquait pas de m'entendre. Alors je poussai lentement cette porte. Certains penseront que j'étais courageuse, mais non, même pas, j'étais simplement inconsciente. Je ne luttais pas contre la peur, je n'avais pas peur. J'étais simplement curieuse et je voulais savoir ce qui se passait, c'est tout. La musique s'arrêta net. Je continuais à pousser la porte doucement et dans la fumée des cigarettes, je vis apparaître 3 jeunes musiciens éclairés par la lumière crue d'une ampoule qui pendait de la voûte. Ils devaient avoir mon âge ou guère plus et c'est eux qui semblaient avoir peur en voyant la porte s'ouvrir. Au milieu d'un fouillis de câbles et d'appareils électroniques, je repérais un guitariste debout qui devait aussi chanter car il avait un micro devant le visage. Au fond, le batteur assis devant ses fûts gardait ses baguettes en l'air et me regardait avec des yeux grands comme des soucoupes, comme si j'étais un fantôme ou peut-être une sirène, c'est plus joli. En face du guitariste, debout devant ses claviers, une casquette sur les yeux, un grand garçon maigre, un peu moins peureux, mis ses mains sur ses hanches en me dévisageant. « Bonsoir, dis-je. » La vue d'une jeune fille, pas trop laide, c'est ce qu'il me semble, apparemment seule et douée de la parole, sembla les réconforter. « Bonsoir, » répondirent-ils ensemble. Ils ne dirent que cela, mais j'entendis la suite de la phrase qu'ils n'osaient exprimer. « Et que nous vaut l'honneur de cette visite ?»« Je suis la fille du nouveau propriétaire de cette maison. » « J'ai entendu de la musique, je suis venu voir. Vous venez souvent jouer ici ?»«
Une ou deux fois par semaine, » me répondit le grand à casquette.
« Et il y a longtemps que vous êtes installés ici ?»«
1 an à peu près. Avant, nous jouions dans la cave d'un copain en centre-ville, mais les voisins se sont plaints. Ici, nous pensions être tranquilles, nous ne gênons personne. »«
C'est vrai, j'en parlerai à mon père. » Mais rassurez-vous, il n'y aura sûrement pas de problème. C'est un musicien. Il joue du violon.
Ce n'est pas tout à fait la même musique, mais c'est toujours de la musique.
Ce serait bien sympa.
Allez, je file me recoucher, je suis gelée. Mais je reviendrai vous voir. Continuez bien.
Mais, demanda malicieusement le garçon à casquette, avant de partir, vous voulez bien nous confier votre petit nom ?
Emmanuel. Et vous ?
Michael.
Jackie.
Et Jean-Michel. Mais il en manque deux ce soir, d'habitude nous sommes cinq.
Et le nom de votre groupe alors ?
Les loups hurlants.
Ok, salut les loups, à la prochaine.
Je compris que les deux portes épaisses empêchaient les décibels de sortir de la cave. C'est seulement quand elles s'ouvraient, sans doute les musiciens avaient de temps en temps besoin d'air, que la musique pouvait s'échapper et monter assourdie jusque dans ma chambre. Le lendemain matin, j'en parlais à Thibault. Il me demanda comment ces musiciens pouvaient jouer sans électricité.
Mais ils ont du courant, il y avait de la lumière, et leurs claviers, leurs guitares, leurs amplis fonctionnent à l'électricité.
Alors, il doit y avoir une ligne qui va jusque dans les caves, mais je n'ai pas encore repéré d'où elle part, celle-là.
Mais alors, demandai-je, comment ont-ils fait, puisque d'après ce qu'ils m'ont dit, cela fait un an qu'ils ont installé leur orchestre dans cette cave. Ils ont toujours eu besoin d'électricité, et avant nous, la maison était inoccupée. Il ne devait pas y avoir de courant.
Justement, aussi curieux que cela paraisse, il y avait déjà du courant quand nous sommes arrivés, avant que les parents ne fassent mettre le compteur à leur nom. Soit quelqu'un payait sans savoir ce qu'on lui facturait, soit EDF avait oublié d'enlever les fusibles au départ des derniers occupants. Nous en parlerons à papa.
Thibault alla faire un tour vers la cave dans la journée, mais il ne put rien voir car la porte était fermée à clé et nous n'avions pas de double de cette clé.
Le dimanche soir suivant, une expédition composée de papa, Thibault et moi-même fit le tour de la maison pour aller rendre visite aux loups hurlants en pleine répétition.
« Bonsoir à tous !» fit mon père en entrant le premier. Comme moi, il avait frappé à la porte, mais en pure perte à cause des décibels de la musique. Il y avait les trois garçons que je connaissais. Il y avait aussi une fille qu'on nous présenta comme étant Élodie, chanteuse en titre du groupe. Après les présentations d'usage, papa prit la parole.
« Comme vous l'a dit Emmanuel l'autre jour, je suis un ami de la musique. » Elle permet d'exprimer plus profondément que des mots les vibrations de notre âme. Elle est le langage du cœur à cœur. Celui qui joue a le plaisir extrême de pouvoir exprimer toute la délicatesse de ce qu'il ressent. Celui qui écoute la musique a le privilège de faire communier le message extraordinairement profond qui lui vient d'une autre personnalité ou d'un groupe de personnalités avec son moi profond.
Papa continua sur ce thème pendant une dizaine de minutes, personne n'osant l'arrêter. Puis, après un temps de silence, il salua et s'apprêtait à se retirer quand Jean-Michel lui demanda
« Ça veut dire qu'on peut rester ?»«
Bien sûr, au contraire, nous sommes ravis de vous accueillir.
Bienvenue à la musique, » répondit papa.
« Il y a seulement, ajouta Thibault, que nous aimerions avoir un double de la clé. » Je voudrais pouvoir vérifier l'installation électrique et éventuellement la remettre aux normes. Si je comprends bien, il n'y a pas de prise ici, tout est branché sur la douille voleuse de l'ampoule au plafond. Si on pouvait éviter de mettre le feu, cela nous arrangerait et vous aussi.
On peut vous laisser la clé dans votre boîte aux lettres en partant et la récupérer vendredi prochain ?
Parfait, en une semaine, je trouverai bien le temps de faire un double. Merci.
Jean-Michel déclara alors « Puisque je vois que vous êtes sympa et que nous pouvons nous entendre, je veux vous dire, ce n'est pas pour le dénoncer, mais seulement pour que vous soyez au courant. Vous avez un autre locataire dans la cave à l'autre bout. »